vous écoute.
D'avoir donné votre nom,
c'est ça? Oui, Dominique Guimond de côté Marquis-Joyal pour procureur général du Canada, Revenu Canada, et Rodrigue Guimond, Georges Coutier, Jean-Maurice Roy et Joël Arsenault. La première requête, c'est notre requête, c'est une requête en irrecevabilité sur, sur l'action de M. Normandin. Écoutez, les conclusions, on les a reproduites dans notre requête. Ce sont les conclusions qui trouvent aucun fondement en droit et qui ne peuvent pas être octroyées par une cour. Si on fait juste regarder la deuxième conclusion de l'action, accueillir la présente action, nonobstant l'inconstitutionnalité de la juridiction du tribunal. Bon, on voit que ça se peut pas, là, et toutes les demandes de l'action sont au même titre que ça. C'est toutes des choses qui se peuvent pas, là. Condamner les percepteurs fiscaux de Revenu Canada à ne plus réclamer de taxes d'impôt au référent Jacques Normandin jusqu'au rétablissement de la monarchie constitutionnelle fédérale de 1867 au Canada à la satisfaction de Jacques Normandin. Bon, écoutez, c'est toutes des choses qui n'ont aucun fondement en droit. C'est toutes des choses qui ne peuvent pas être octroyées par la Cour. À sa face même, la procédure de M. Normandin est mal fondée et frivole. Par ailleurs, la procédure elle-même est irrégulière. Si on regarde l'intitulé des procédures, on voit que, bon, M. Normandin appelle dans l'intitulé des témoins. Bon, il y a aussi le fait que la procédure de M. Normandin est quelque chose qui ressemble plus à une requête en jugement déclaratoire que d'autres choses. Une requête en jugement déclaratoire, c'est de la compétence de la Cour supérieure et non de la compétence de la Cour du Québec. Je pourrais rajouter aussi, bon, on parle d'inconstitutionnalité de la Cour du Québec, inconstitutionnalité du tribunal, inconstitutionnalité de différents points. Il n'y a aucun avis constitutionnel qui a été envoyé. Écoutez, c'est clair qu'il y a un problème dans cette procédure-là. C'est clair que c'est non fondé, ni en fait, ni en droit, mais même si on prend les faits allégués pour véridiques, il n'y a pas moyen d'avoir les conclusions, il n'y a pas moyen qu'une Cour de justice accroît les conclusions qui sont demandées par M. Normandin. Par ailleurs, bon, je sais que mes collègues vont peut-être faire des représentations, eux aussi ont une requête du même type. M. Normandin présente la numéro 27, qui est une requête en rejet de la défense et en rejet de la requête en irrecevabilité. Je tiens peut-être à préciser que, bon, on ne peut pas faire rejeter de défense parce qu'il n'y a pas eu de défense encore, on attend des jugements sur l'irrecevabilité. Il ne peut pas avoir de requête pour faire rejeter une requête en irrecevabilité en vertu des droits, en vertu du code de procédure civile. C'est quelque chose qui se fait oralement. Par ailleurs, si vous lisez cette requête-là, la requête numéro 20, qui est la numéro 27, cette requête-là contient des propos que le procureur général du Canada considère comme diffamatoire envers la procureure générale et envers moi-même. Je veux dire, on parle de mon ignorance personnelle. Alors, je voudrais faire une requête orale ce matin pour que cette requête-là soit enlevée du dossier.
Bon.
Est-ce que vous voulez que je remplace le deuxième?
Là, c'est la même, c'est sur la même requête. Donc, pour eux, il va vous répondre. C'est la même réponse que vous avez aux trois?
Oui. Aux deux requêtes? Ma requête est exactement la même.
Non, juste un moment, mais tu peux pas. C'est la même réponse que vous allez avoir pour tout le monde?
Non, c'est différent. Ah bon? Donc, si Maître Spivak veut se prononcer avant, il n'y a pas de problème, si vous voulez.
Ben, c'est pour vous, c'est pas pour moi. C'est pas grave. Je vais vous... OK.
J'ai fait exactement la même requête avec les mêmes allégués que mon confrère ici présent.
Mm-hmm.
La seule distinction que je peux faire avec lui, c'est que je suis dans le 14e fois que notre bureau s'oppose à ça avec les mêmes arguments. Et ça commence, qui n'ont aucun fondement, jamais, 14 dossiers, toujours les mêmes arguments, toujours les mêmes choses, et on ne comprend pas que monsieur n'a pas compris que les cours, ils semblent demander un changement politique et pas une contestation légale. Je comprends qu'il n'est pas avocat, mais il faut qu'il envoie des avis des 95, des différentes choses, et les différentes choses il faut qu'il fasse des conclusions qui peuvent être accueillies malgré qu'il n'est pas avocat et malgré au moins 14 tentatives, il ne réussit pas. Alors, on a fait la conclusion que ce n'est pas la peine de lui demander d'amender ses procédures parce qu'il a eu déjà 14 tentatives et ce n'est pas mieux que vous avez devant vous. Je vous remercie.
Oui, merci. À titre de représentante de l'un des défendeurs Revenu Québec, Votre Seigneurie, j'aimerais endosser les propos de mes confrères par la production d'une requête verbale ce matin d'irrecevabilité et surtout attirer votre attention sur une des conclusions, accueillir la présente action malgré l'inconstitutionnalité de la juridiction du tribunal.
Alors, ça commence bien, voilà.
J'aimerais donc mettre en évidence ce paradoxe, si on peut le dire, et vous demander d'accueillir nos requêtes en irrecevabilité.
OK, merci. Bon, c'est à votre tour, monsieur. Coucou.
Oui. Écoutez, j'ai déposé une requête sur une déclaration. Ça concerne un dossier que j'ai reçu, une demande que j'ai reçue de Revenu Canada ici. Et cette demande-là m'oblige tout simplement à produire. C'est une demande de M. Rodrigue Dumont, OK, et de son directeur, M. Georges H. Toutier, de Revenu Canada. Ils disent ici, monsieur, pour les motifs d'application et d'exécution de la loi de l'impôt sur le revenu, et conformément aux dispositions de l'alinéa 231-21A de la dite loi, vous êtes tenu par la présente de produire au plus tard le 12 juin 2001 une déclaration d'impôt des particuliers sur formule T1, okay, dûment complétée et signée, incluant un état de revenus et dépenses pour l'année d'imposition 1997. Et là, ils disent ici, si au plus tard le 12 juin 2001, vous n'avez pas tempéré à cette demande péremptoire, vous serez passible de poursuite sans autre avis. En vertu du paragraphe 238.1 de la dite loi, quiconque omet de se conformer à cette demande est coupable d'une infraction et passible sur déclaration sommaire de culpabilité d'une amende d'au moins 1 000 et d'au plus 25 000 $ ou à la fois de l'amende et d'une peine d'emprisonnement d'au plus 12 mois. Vous savez, je peux terminer la lettre, mais je pense que c'est ça quand même qui est bien important. Il dit, depuis en conformité avec le paragraphe 162.2 de la dite loi, quiconque omet de produire une déclaration dans les formes et à la date prévue en premier lieu est passible d'une pénalité correspondant à un total de 10% de l'impôt impayé, ainsi de suite. Ils disent, vous devez produire la déclaration exigée au bureau des services fiscaux de Laval, au 31, l'adresse est indiquée, et c'est Georges H. Cloutier, directeur de l'impôt au bureau des services fiscaux de Laval. Donc, c'est certain que quand j'ai reçu cette lettre-là, première des choses, j'ai regardé la lettre religieusement. La demande ici est adressée à Jacques Normandin. Je n'ai pas mon numéro d'assurance sociale au dossier ici. Donc, c'est certain qu'ils ont adressé cette demande-là en ma qualité tout simplement de personne naturelle à moi. Ils n'ont pas demandé sur mon numéro d'assurance sociale. Donc, je me suis dit, il y a une possibilité de contester. Et c'est de là que j'ai regardé la question de déposer une déclaration, dans le sens où une déclaration ne me force pas nécessairement à déposer, si vous voulez, un avis de présentation. On demande tout simplement aux défendeurs de produire une défense, et ensuite de ça, c'est à eux à tout simplement déposer l'avis de présentation en question. C'est certain, comme dit Maître Spivak, depuis à plusieurs reprises, j'ai déposé des requêtes devant les tribunaux. C'est certain que je conteste, et je ne nie pas du tout, que je conteste l'inconstitutionnalité des cours de justice ici au Québec, et mes prétentions sont bien fondées, c'est évident que mes prétentions sont bien fondées, sauf que je demanderais à Maître Guimond ou à Maître Spivak de me dire s'ils sont maîtres en droit constitutionnel.
Ça ne vous regarde pas, ça.
Écoutez, c'est ça certain
que... Ça ne vous regarde pas, parce que vous, on vous demande d'autre chose. Voyons donc.
Écoutez, on me traite d'ignorant, donc à partir de là...
Je vous ai traité d'ignorant, alors.
Non,
c'est vrai. Vous me traitez de personne qui n'existe pas, alors c'est pas grave.
Ben, j'existe puisque je
suis... Non, moi j'existe pas, mais je n'ai pas de téléphone tribunal.
C'est pas que vous n'existez pas, là, votre seigneurie.
De toute façon, je m'en fous ce que vous pensez là-dessus. Réglez votre code droit. Laissez faire le reste. Que j'existe ou pas, laissez faire votre sujet.
Écoutez, je vais vous produire ici un dossier, OK, de l'honorable Léopold Goulet.
Non, ça ne m'intéresse pas.
Ben, c'est la même cour que vous.
Ça me paraît. Je vais entendre votre défense ici, tout simplement, là. Donc, là, on dit, je ne sais pas si vous comprenez exactement, là, on dit tout simplement, ben, écoutez, l'action qui prend, premièrement, pas devant le bon tribunal, deuxièmement, il n'y a pas l'avis de 95, et troisièmement, les conclusions ne sont pas de la juridiction de ma cour. Je ne sais pas, c'est à vous de me dire que vous êtes correct, c'est tout.
Oui, je vais vous dire que je suis correct. Premièrement, on dit que ce n'est pas devant la bonne juridiction, je ne suis pas devant le bon forum. J'ai ici la preuve que la cour provinciale est le bon forum pour débattre la question de l'impôt, puisque vous avez un gain ici sur le tribunal, c'est la cour d'Ontario ici. Non, c'est vrai que c'est la cour fédérale d'Ontario, mais dommage, je ne sais pas si je l'ai ici. C'est un jugement de la cour du Québec. Je ne l'ai pas ici, mais c'est pas de la province de Québec, c'est d'une autre province, mais peu importe. Que ce soit d'une autre province, on est quand même toujours au Canada, étant donné que le procureur général du Canada est ici présent. Fait que je vais continuer dans cette fameuse défense-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai produit ici une requête, justement, avec l'article 176, OK, de faire déclarer la défense et la requête en irrecevabilité du procureur général du Canada
non avenue. C'est ça que j'étais en train de faire.
C'est ça. Je demande simplement de déclarer non avenue. C'est certain que je n'avais pas reçu, quand j'ai rédigé, que j'ai demandé la signification de ça, je n'avais pas eu la défense du procureur général du Québec. Ça m'a été signifié le soir. Donc, c'était déjà mon dossier. Ça m'a été signifié le soir.
Mon irrecevabilité.
Ah, c'est pas une défense, une requête.
C'est-à-dire, c'est ça.
C'est pas une forme de défense. Non, non, c'est pas une forme de défense.
Oui, mais ça fait rien. C'est pour contrer tout simplement.
Rassurez, ça fait rien. Après tout, que le code n'est pas bon.
Non, écoutez, je ne dis pas que le code n'est pas bon.
Mais c'est ça, vous
savez. Sauf que j'ai reçu la requête du procureur général du Québec à la fin de la journée après.
C'est une requête parce que c'est une requête. Une défense, oui, la défense, c'est au fond. La requête, c'est simplement une procédure.
C'est ça. Mais là, c'est ça, il est. Eux ont déposé une requête sur le fond, alors qu'on n'a pas discuté du fond, que je n'ai pas pu m'expliquer sur le fond, jamais. Dans les 14 fois que je me suis présenté devant les tribunaux pour discuter de la constitutionnalité, jamais on a débattu du fond de mes requêtes. Jamais, jamais, jamais. On n'a jamais ouvert une page pour essayer de donner des explications à ça. Ces gens-là arrivent et vont tout simplement prétendre que mes droits ne sont pas fondés. J'ai ici, j'ai produit un cahier d'autorité que je vais vous donner ici, qui se trouve à établir le fondement de droit de mes prétentions. C'est un cahier d'autorité que j'ai...
Je m'en ramène une copie ici au procureur général du... Il y en a un plus
qui bras. Ça se trouve à justifier, si vous voulez. C'est un contenu de ce qui justifierait mes droits. Sauf que c'est certain qu'on ne voudra pas discuter du contenu de ça. Parce que c'est facile de dire que...
Non, pas aujourd'hui, je ne suis pas là pour ça. C'est une procédure aujourd'hui, c'est tout simplement. Je suis pas au fait de la
faire. Que ce soit une procédure ou peu importe, je ne veux pas un débat sur la technicalité. Je demande tout simplement qu'on prenne connaissance des dossiers que je peux présenter et à partir de là qu'on puisse s'expliquer. Jamais on a osé. J'ai déposé des avis 95 dans les autres dossiers. Ils ont ignoré les avis 95. J'ai déposé un mandamus dans un dossier. On a rejeté un mandamus. J'ai déjà déposé un certiorari dans un dossier. Ils ont toujours rejeté mes dossiers sans même ouvrir une page de mes dossiers. Moi, aujourd'hui, ici, on me dit à Revenu Canada, vous allez payer ou on va vous emprisonner ou on va vous charger entre 1000 et 25 000 $ d'amende. Et les droits, ça n'existe pas pour vous. La Constitution, ce n'est pas un droit. Ce n'est pas un fondement de droit, la Constitution canadienne. La loi des magistrats, ou la loi du barreau, ou la loi, peu importe les lois, il n'y a aucun fondement. Alors que moi, tout est fondé sur la loi. Tout est un fondement de droit. J'utilise des dispositions du Code de procédure civile et on me dit que c'est pas bon. On dit que c'est frivole. J'utilise des dispositions du Code criminel, on me dit que c'est frivole, que c'est pas bon. On me dit tout simplement, parce que je ne suis pas avocat, alors que l'article 59 me permet, s'il y a plusieurs personnes, de représenter, d'être en justice. Et l'article 61 me permet aussi de représenter quelqu'un en justice, mais au nom de la reine, dans le sens où les procureurs qui se présentent devraient être procureurs, en vertu de l'article 59, au service de la reine, et non au service de l'État. Vous comprenez? Et quand on parle de constitutionnalité, ici au Québec, on parle de l'État du Québec. À ce que je sache, il n'y a pas présentement de document qui prouve que le Québec est un État. Il n'y a absolument rien de ça. Quand je soulève la question de la nationalité québécoise, c'est une nation, c'est un État. La juridiction de la Cour provinciale est nommée tout simplement par le gouvernement du Québec. Si vous connaissez la Constitution, alors l'article 96 et suivant de la Constitution canadienne, vous le savez que la juridiction ici de la Cour provinciale est complètement inconstitutionnelle. Vous le savez, Maître Spivak le sait et Maître Dominique Guimond le sait aussi. Ils connaissent la Constitution, ils sont censés connaître le droit constitutionnel pour pouvoir débattre de ça. Quand on parle du pouvoir exécutif du Canada, on dit que le pouvoir exécutif du Canada appartient à la reine. Aujourd'hui, on donne l'interprétation du mot couronne. La couronne, c'est le procureur général ou le gouvernement ou l'État.
Donc, il y a l'État du Québec qui est la couronne, il y a l'État du Canada qui est la couronne, il y a le procureur général du Québec qui est la couronne et le procureur général du Canada qui est la couronne. Ici, au Québec, on débat sur le fédéralisme ou le séparatisme. Donc, toi, tu es sujet de quelle couronne? Est-ce que tu es sujet d'une couronne séparatiste ou est-ce que tu es sujet d'une couronne fédéraliste? À quelque part, les gens ne connaissent pas la Constitution, donc ils ne veulent pas en débattre. Et les procureurs qui devraient connaître la Constitution ne veulent pas en débattre. Vous savez, il y a raison de dire que je n'ai pas déposé d'avis 95, je l'ai fait ailleurs. Tout a été rejeté, on refuse d'ouvrir une copie du dossier, d'ouvrir une page. Moi, la seule façon de pouvoir en débattre, c'est sur les dépens. C'est en contestant les dépens de la Cour. En contestant les dépens, là, je vais rentrer dans la constitutionnalité, justement, des juridictions, et dire, est-ce que vous êtes autorisé, vous, en vertu de la loi des tribunaux judiciaires du Québec, de me charger des dépens, si cette loi-là prouve que vous êtes inconstitutionnel en vertu de l'article 93 et suivant de la Constitution canadienne. Et là, je parle ici à la juridiction de la Cour provinciale. Vous savez, c'est certain, j'ai débattu des dossiers aussi contre les caisses populaires, vous avez été présent au dossier. Vous avez dit que, mon Dieu, que je vous tombais sur la rate et tout ça, j'ai respecté votre décision. Ça, c'est dernièrement. Puis les gens qui sont ici dans la salle, ils étaient dans la salle aussi. Je vais vous dire, c'est ça. Moi, je n'ai pas de succès devant les tribunaux. Et Maître Spivak le sait, il me connaît. Et Maître Guimont, c'est différent, mais Maître Spivak, quand même, on se connaît. Et mon cousin travaille pour le bureau de Bernard Roy associé. Donc, à quelque part, là, on a une façon de nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous savez, l'étude de Veillette et Associés, qui représente Revenu Québec, n'ont pas déposé de requête en irrecevabilité. Elles le déposent peut-être aujourd'hui devant la Cour, parce qu'on dit peut-être qu'il ne se présentera pas, ou peu importe de quelle façon il va procéder. On arrive toujours à la dernière minute. Procureur général du Québec, il est, lui, sous le statut de ma requête ici, là, sous le titre, là, il est accusé, pour voir si un accusé peut représenter d'autres accusés au dossier. C'est comme si je demanderais à Mme Boucher de représenter ses confrères. Dans son titre, dans son statut, il est accusé. Il n'a pas à représenter. Le procureur général du Canada, présentement, n'a pas à représenter Revenu Canada. Il n'a pas à représenter les gens qui ont la compétence à l'intérieur du dossier, de mon dossier, puis qui veulent tout simplement me faire emprisonner ou me charger une amende entre 1 000 et 25 000 $ d'amende. Je demande que chaque accusé puisse déposer une défense en bonne et due forme à partir de ma déclaration. S'ils sont capables de le faire par écrit, une défense à l'intérieur du contenu, et me dire que c'est faux, ben, je vais vous dire une chose, je vais m'incliner. Je vais carrément m'incliner à votre demande. Je demande, moi, dans mon dossier, de pouvoir être dans la légalité pour payer mes impôts et mes taxes, pas être dans l'illégalité pour payer mes impôts et mes taxes. C'est ce que je demande. Et je donne toutes les explications. On n'a jamais ouvert un dossier. Votre Seigneurie, ça fait des années, ça fait 5, 6 ans, 7 ans, j'ai débattu pour la question de l'abrogation de l'article 93, j'ai comparu devant la Cour supérieure dernièrement, à l'automne dernier. J'ai dit au juge, j'ai dit, ce n'est pas actualisé à l'annexe de la Constitution canadienne, l'abrogation de l'article 93. Le juge m'a condamné avec des peines. Il sait que c'est pas abrogé. J'ai dit au juge, j'ai dit, écoutez, je vais être obligé d'ouvrir une nouvelle instance parce que c'était une requête en termination d'instance, puis Maître Spivak était là. Et j'ai pas reçu encore une copie des dépens. On m'a pas encore demandé de payer les dépens parce qu'ils savent que là, je vais contester sur l'actualisation de l'abrogation de l'article 93 et en même temps, je vais soulever l'actualisation de l'Assemblée nationale du Québec qui n'est pas actualisée à la Constitution canadienne depuis 1968. Il n'y a aucune actualisation. L'actualisation, c'est rendre du virtuel au réel. Donc, à quelque part, il y a des gros problèmes. Quand on parle de Revenu Canada, on demande, moi, ils disent, ah, Revenu Canada a le droit de prélever des impôts ici au Québec. C'est pas dans la Constitution canadienne, c'est carrément inconstitutionnel, ça. L'article 91 le défend. Eux ont le droit de prélever des taxes indirectes, donc des taxes sur les produits. C'est pour ça qu'ils ont plusieurs moyens de procéder pour prélever des taxes, alors que les provinces, eux, ont une juridiction tout simplement directe, dans le sens où ils prélèvent directement l'impôt sur le revenu directement du contribuable. La province n'a pas le droit de passer par un employeur pour faire prélever les impôts. C'est interdit. Sur l'impôt indirect, par exemple, ils ont le droit, parce que c'est sur des produits, c'est certain qu'on va passer par le commerçant pour prélever des impôts. Mais pas sur l'impôt sur le revenu. Et ça, c'est le gouvernement fédéral qui a tout simplement statué dans ce sens-là. Moi, je connais mes droits, Votre Seigneurie, je connais le droit constitutionnel, je suis capable de donner des détails précis, avec des dispositions précises et tout ça. Et on ne veut pas débattre du contenu de mes requêtes. Moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est pas d'être exempté d'impôts et de taxes, je ne veux pas ça. Je veux respecter la Constitution canadienne. C'est ce que je demande, de respecter la Constitution canadienne et de pouvoir payer dans la légalité des impôts et des taxes. Et on me le refuse. Ça, c'est quelque chose qui est carrément aberrant. et on n'ose pas mes dossiers en disant que c'est farfelu. Donc, quand on dit que c'est farfelu, ben, dans ce qu'il y a dans le cahier d'autorité, présentement, c'est tout farfelu. Vous avez l'actualisation des amendements constitutionnels dans ce dossier-là. C'est farfelu. Vous comprenez, tout est farfelu. Ça ne tient pas debout. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils veulent discuter de chaque disposition de la Constitution à partir du pouvoir exécutif du Canada que vous êtes censé représenter comme juge? Parce que vous êtes représentant de la Reine. Donc, la Reine, c'est le pouvoir exécutif du Canada. Et ici, c'est le pouvoir exécutif du Québec par le lieutenant-gouverneur. Les cours de justice, c'est ça. Quand on parle de procureur de la Couronne, on parle de procureur de la Couronne, on parle de quelle reine? On est dans une monarchie constitutionnelle. Ici, le Québec se fout carrément du fédéral. Mais quand on parle de juridiction fiscale, là, ben, ça travaille ensemble. TPS, TVQ, ben, c'est le Québec qui est chargé de faire savoir la TPS et la TVQ. Puis, qui est attitré pour faire ça? C'est la maison du barreau du Québec. Quand vous regardez dans l'annuaire judiciaire du Québec, vous allez voir, c'est la maison du barreau du Québec qui est mandatée pour cette juridiction-là. Il y a des gros problèmes fiscaux à partir de l'inconstitutionnalité du fédéral dans les juridictions d'affaires, dans les juridictions provinciales. On ne veut pas en discuter. J'ai raison et jamais on ouvre une page de mon dossier. Je ne suis pas capable même d'expliquer un article ou même une phrase de mon dossier. Là, je vous dis ça par cœur comme ça parce que je connais mon dossier. C'est peut-être pas cohérent dans le sens où c'est certain que je ne peux pas suivre mon texte. J'essaie de me défendre du mieux que je peux, mais on me refuse de me défendre. Je vais déposer la 95, on ne voudra pas l'ouvrir. Je l'ai fait dans d'autres dossiers, on ne les a pas ouverts. Ici, dans ce dossier-là, ici, que tantôt je vous ai parlé, devant le juge Lionel Goulet de la Cour du Québec à Longueuil, il dit, le système est carrément inconstitutionnel et illégal, sauf que j'avais pas mis de conclusion au dossier. Donc, la personne, que je représentais, a simplement payé le minimum de l'amende qui lui était imposée, puis il n'a pas payé de dépens. Et ils l'ont dit, le juge l'a dit avec le procureur, il dit ce dossier-là devrait être déposé devant la Cour de Londres. C'est pas des imbéciles, ces gens-là, ça a été statué l'automne passé. Donc, pourquoi moi je serais un imbécile devant des gens ici, puis que le juge Goulet, à Longueuil, dit que le dossier est solide, puis qu'il l'a lu deux fois, puis qu'il y avait beaucoup d'ouvrages, et le barreau du Québec était concerné dans ce dossier-là. C'est Maître Désy qui était dans le dossier de cette requête-là. Donc, si vous voulez, moi, quand je parle tout simplement de mes droits, c'est que j'ai reçu une lettre de menace. Pour moi, c'est une lettre de menace. J'ai le droit de me défendre. C'est certain que je vais arriver, je vais aller voir un procureur avec ça, je vais dire, écoutez, je vous donne ça, essayez donc de sortir telle ou telle situation, tel événement, ou à partir tout simplement de mes droits que je connais. L'avocat va dire non. Parce que ça, et je vais vous dire, maître, il y a un avocat, Maître Jean Durie me l'a dit, il dit un dossier comme ça, il dit je ne peux pas débattre de ça, il dit je vais être expulsé du barreau du Québec. Donc je ne touche pas à ça. Et pourtant je lui demandais tout simplement de représenter quelqu'un à partir d'une requête que j'ai tout simplement rédigée, puis que tout était expliqué à l'intérieur de la requête. Donc je connais quand même mes droits, je sais ce que je demande. Aujourd'hui je demande la protection de la Cour, c'est une protection que je demande. En déposant une déclaration, je veux demander aux gens qui m'accusent de pouvoir prouver leur prétention en disant tout simplement par leur défense que chaque chose que je soulève, chaque élément soulevé dans ma déclaration, c'est faux. Puis moi, je demande tout simplement qu'ils rédigent une défense écrite pour prouver que c'est faux. Je vais m'incliner à partir de là. C'est tout ce que je demande. Je ne refuse pas l'exemption d'impôt. Votre Seigneurie, je vais vous montrer quelque chose ici qui va quand même vous étonner, et ça existe parce que ça vient de l'Ontario. J'ai une carte d'exemption de taxes et d'impôts. Et vous pouvez me l'enlever si vous voulez, parce que ça existe. Et j'ai le jugement, c'est la Cour fédérale de l'impôt, si vous voulez montrer ça, et aux deux procureurs aussi. C'est le jugement T2020-88. C'est un jugement de la Cour fédérale d'Ontario. Regardez le document, et le jugement, je l'ai.
Il y a tiens, il n'est pas content, là. Hein, il y a tiens qui n'est pas content, tu veux me le dire en pleine face, là. Hein, laisse-le, viens me le dire, si ça fait ton affaire.
J'ai pas dit vous, les procureurs étaient là, ils ont même refusé de faire
ça. Bon, puis, si vous voulez, ils ont le droit à leur idée, comme vous avez le droit à la vôtre. Pas obligé de lire tout pour ça.
Tiens, ça, c'est le jugement qui va avec cette carte-là, parce que cette carte-là, ils ne la fournissent pas s'il n'y a pas de jugement avec. C'est ça le jugement T2020-88.
Non, je comprends ça. Vous savez, j'ai le droit à ça.
Sans doute que j'ai le droit, sauf que Revenu Canada ne reconnaît pas ça. Revenu Québec ne reconnaît pas ça. Ils ne reconnaissent pas l'inconstitutionnalité de leur juridiction fiscale. Tout ce mélange de juridictions, l'impôt direct et l'impôt indirect, et Maître Spivak, si vous voulez en débattre, là, on va en débattre.
Non, c'est pas le temps, vous dites.
Non, non, je sais parce que c'est... Je sais, parce que c'est quand même un dossier solide. Moi, la, ce que je demande dans ma requête en question, c'est qu'il dépose une défense écrite de façon à me permettre à moi de financer, de payer mes taxes et mes impôts, mais dans la légalité, de pouvoir me permettre... Voyez-vous, c'est ça la Constitution canadienne ici, de pouvoir me permettre une copie, mais de me permettre de payer des taxes, mais dans la légalité constitutionnelle, dans la constitutionnalité de mon statut à moi. C'est ce que je demande. Je veux pas être exempté d'impôt. Ça, je vais vous dire, je l'utilise quand? Quand ça me tente. J'ai la liberté fiscale avec ça. C'est pas l'exemption.
Le téléphone, c'est défendu. C'est défendu ici. Okay? C'est marqué au début. Excusez, c'est pas votre faute.
OK. Fait que, vous savez, c'est pour ça que moi, ça, ça fait partie de mon dossier, la Constitution canadienne. Et quand on dit que c'est farfelu, à mon avis, il n'y a rien de farfelu dans la Constitution canadienne. La juridiction du Québec, c'est la juridiction du Québec. La juridiction du fédéral, c'est la juridiction du fédéral. Et Maître Spivak, vous devez respecter à l'intérieur du Québec la juridiction qui appartient au Québec. On sait que nos politiciens se battent toujours sur une question de juridiction, d'ingérence des compétences fédérales dans les juridictions provinciales ou vice-versa. Il y a des problèmes comme ça, je les connais, ces problèmes-là. Je viens de déposer, Votre Seigneurie, une demande, c'est un projet de loi d'intérêt privé qui est parrainé par Jean-Pierre Charbonneau, le président de la Chambre de l'Assemblée nationale. Je vais être le premier à demander mon statut d'indépendance nationale et j'ai les moyens, la raison et les connaissances pour le faire, Votre Seigneurie. Et Maître Spivak ne peut pas s'opposer à ça. Il est du ministère de la Justice du Québec qui n'est pas fédéraliste, qui n'est pas supposé d'être fédéraliste. Il est supposé de servir la province ici. Et le procureur général du Canada sert le Canada. Ils ne sont pas supposés de contacter ensemble alors que dans les débats publics, dans les journaux et tout ça, on berne la population en disant que ah, il y a des ingérences du fédéral dans les juridictions provinciales et tout ça. Alors que quand on arrive dans un débat constitutionnel, ces gens-là sont solidairement, c'est comme les Siamois, ils sont collés ensemble, puis il n'y a pas question de pouvoir passer à travers ça. Et moi, ce que je demande, si vous voulez que je dépose un avis 95, je vais déposer un avis 95, ça va me faire plaisir. Et si vous voulez en tenir compte, je vais le faire, Votre Seigneurie. Moi, ça va être, c'est pour servir, c'est pour vous servir autant vous que moi et eux, dans le fond. Ça ne me dérange pas, sauf que j'ai l'impression que le contenu de ma déclaration est quand même suffisamment clair pour qu'ils puissent eux-mêmes, à partir d'une rédaction, rédiger leur défense, que je puisse savoir sur quelle prétention. Ils doivent me prouver qu'ils sont légaux, ces gens-là, dans la juridiction, dans l'autorité qu'ils possèdent de me menacer d'emprisonnement parce que je ne paie pas d'impôt au fédéral qui est carrément constitutionnel. Vous savez, dans un jugement, le 536-00-1591-984, c'est un dossier solide, ça, à la Cour supérieure du Québec, ici à Montréal. Dans ce jugement-là, moi, j'ai poursuivi l'Assemblée nationale et la Chambre des communes. Ils ont comparu en vertu de l'article 99, je n'étais pas présent. C'est certain que la question de demander qu'il y ait, d'avoir un repiquage de ces choses-là ou l'audio de ça, je n'ai absolument rien eu de ça. Et moi, j'ai déposé un requête dans lequel je fais la preuve de l'inconstitutionnalité de la dette canadienne. J'en fais la preuve ici, mais on coupe dans les hôpitaux, on coupe dans l'éducation, on coupe partout sur des questions inconstitutionnelles à cause de l'inconstitutionnalité des percepteurs de taxes et de la perception de ces taxes-là. La population en souffre, et c'est tous les gens souffrent de l'inconstitutionnalité du système, alors que moi, je demande au gouvernement de me permettre, dans la légalité, de pouvoir payer des taxes et des impôts, d'une façon à ne pas être attaqué ou être tout simplement, comment je pourrais dire, quelqu'un qui se trouve à être traqué par le système. Je n'ai pas à être traqué par un système si, moi, je sais que dans la légalité, je peux payer des taxes et des impôts pour servir la population, pour servir mes enfants et ma famille. On sait que ça, c'est normal d'en payer des taxes et des impôts, c'est dans la Constitution, puis il faut en payer. Pourtant, j'en ai une carte d'exemption, puis je m'en sers pas tout le temps, je vous le dis. Puis je m'en sers des fois, par exemple. C'est une liberté. Sauf que la liberté fiscale appartient tout simplement, comment je peux dire, à l'impôt direct, dans le sens où c'est sur le revenu que vous possédez que vous êtes libre de payer l'impôt, mais pas sur les produits. Sur les produits, ça, si tu achètes un produit, tu la payes la taxe. Sinon, tu n'as pas à l'acheter. Tu ne veux pas payer de taxes. Et c'est ça le problème de juridiction. Il y a la loi, le chapitre 58 de 1947. Écoutez, les lettres patentes du gouverneur général sont devenues applicables, et vous le savez, en 1947, alors qu'ils ont été rédigés en 1931. Toutes les sanctions royales, toutes les proclamations ou les promulgations, non, il n'y a rien de ridicule là-dedans. On parle de constitutionnalité, on parle du pouvoir exécutif du Canada. Les lettres patentes du gouverneur général sont devenues applicables en 1947, puis là, en 1947, là, ils ont adopté la loi, le chapitre 58, dans lequel le fédéral louait des juridictions fiscales à la province de Québec et aux provinces, mais c'est à la province de Québec. Donc, louer des juridictions, pourquoi il a loué des juridictions? C'est qu'automatiquement, il violait les compétences constitutionnelles accordées aux provinces. La province n'avait pas à se soumettre à cette demande-là, tout simplement. Donc, et là, mais vous regardez John Diefenbaker, j'ai une déclaration, c'est dans mes dossiers, dans laquelle John Diefenbaker, en 1961, disait qu'il remettait aux provinces la juridiction en matière de fiscalité, de revenus directs et tout ça. Puis en fin de compte, ça n'a pas été adapté, ça l'a resté quand même sur les tablettes. Mais ça prouve qu'à quelque part, le système est illégal et qu'il y a des gens, c'est-tu de l'ignorance? Est-ce que c'est de l'ignorance crasse? Est-ce qu'on veut un jour éventuellement pouvoir servir notre société ou continuer à l'endetter, puis endetter nos générations qui nous succèdent parce qu'on refuse de respecter la Constitution? Puis parce que moi, je suis censé être un parfait imbécile, tout est farfelu. Hein? C'est pas fondé en droit, c'est ce qui est là-dedans, là, c'est pas fondé en droit, ça c'est rien ça. Hein? Donc, si c'est pas fondé en droit, la Constitution n'est pas fondée en droit. Le système politique canadien n'est pas un fondement de droit. La Fédération canadienne n'est pas un fondement de droit. Puis ces gens-là là, vont négocier présentement à Québec, là. Hein, ce sont les Amériques. Et, bon, c'est extraordinaire. On voit qu'est-ce que c'est notre système. On voit ce que le fédéral a fait là-bas au Québec. Puis aujourd'hui, ils sont ensemble. Ils travaillent ensemble. Et puis, moi, je recherche mes droits à l'intérieur de ça. Puis je recherche l'application de la légalité de mes droits dans la constitutionnalité. C'est ça que je recherche. Je ne demande pas l'impossible. Je demande aux gens qui connaissent de faire valoir leur connaissance et de me dire, écoute, M. Normandin, non. Tu ne comprends pas, c'est ça que ça veut dire. Bon, mais dites-moi si c'est ça que ça veut dire que je comprenne, puis là, je vais accepter votre décision. Mais si, par contre, vous n'êtes pas capable de me l'expliquer, je vais vous dire pourquoi vous ne pouvez pas l'expliquer. C'est pas compliqué. C'est pour ça que moi, dans la requête que je demande, tout simplement, c'est une requête, c'est défense, voyez-vous, c'est déclarer la défense et la requête en irrecevabilité du procureur général du Canada non avenue. C'est dans le fond, la défense elle-même, il a sa compétence, mais il n'a pas la compétence des percepteurs qui me poursuivent. Les percepteurs qui me poursuivent ont d'autres choses à dire. J'ai demandé à Revenu Canada, Agence des douanes et du Revenu du Canada, de me fournir la charte de leur corporation, parce que c'est une corporation privée, c'est l'article 4 de la loi du chapitre 17, de la loi fédérale, de 1999. Je leur ai demandé de me fournir le nom des administrateurs, donc la copie de la charte de l'Agence des douanes et du Revenu du Canada. Ils ne l'ont pas fait. Et là, c'est les percepteurs qui arrivent à tout bout de champ même pour me menacer, pour dire, écoutez, moi, je veux savoir qui je peux poursuivre dans la légalité. Il y a Revenu Canada, il y a l'Agence des douanes et revenus du Canada, il y a le procureur général du Canada et il y a les percepteurs. Ça, c'est les gens qui sont concernés au dossier, ils ont chacun leurs compétences. C'est faux de dire que c'est le procureur général du Canada qui occupe toutes les compétences dans ce dossier-là, c'est complètement faux. À moins que je sois un parfait abruti, moi, je ne dis que vous n'êtes pas percepteur, c'est pas vous qui m'avez envoyé la lettre, là. C'est pas Revenu Canada, c'est l'Agence des douanes et du Revenu du Canada. Revenu Canada a d'autres juridictions. Revenu Canada connaît la Constitution. Revenu Canada est concerné dans le dossier. Vous, dans le fond, c'est quelle est la dimension que vous soulevez? Est-ce que c'est une dimension constitutionnelle pour servir Revenu Canada ou est-ce que c'est une dimension fiscale pour servir l'Agence des douanes et du Revenu du Canada? Vous voyez ou est-ce que vous voulez servir simplement les percepteurs? Qui vous servez là-dedans? Vous ne pouvez pas servir tout le monde. Si je vous demande, moi, pour quelle raison vous avez pas mis mon numéro d'assurance sociale dans cette demande-là, dans cette réclamation-là, dans cette menace-là, dites-moi pourquoi vous ne l'avez pas mis. Bon, voyez-vous, quelle juridiction est-ce que vous occupez au nom des percepteurs de l'Agence des douanes et du revenu du Canada? Et Maître Spivak, bien, c'est certain, vous faites du mieux que vous pouvez. Vous êtes censé servir le Québec et je vous en supplie, servez le Québec. C'est important que le ministère de la Justice du Québec, peu importe son inconstitutionnalité, le fédéral l'est autant. Vous comprenez? Le fédéral est autant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le fond, je pourrais leur tirer et dire, écoutez, mettez-moi en prison, je m'en vais. Mettez-moi en prison parce que je refuse la constitutionnalité du système et vous le savez. Sauf que ce n'est pas ça. L'illégalité dans la juridiction fédérale est aussi illégale constitutionnellement que l'illégalité du Québec. Sauf que le Québec, on ne doit pas créer un désordre à cause, justement, du comportement du fédéral à l'intérieur du Québec. Le Québec est suffisamment désordonné comme il l'est présentement. Il y a moyen d'aider le Québec tout en cherchant à demander au fédéral de prouver qu'il y a une juridiction à l'intérieur du Québec. Moi, je dis que les numéros d'assurance sociale qui sont donnés ici au Québec par les certificats d'assurance sociale, c'est illégal depuis 1968, depuis la création de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas personne au fédéral qui s'est objecté sur la question d'abolir l'Assemblée législative et le Conseil législatif du Québec. Il n'y a pas personne. Ça, ce n'est pas actualisé à l'annexe de la Constitution canadienne. Est-ce que je suis un imbécile ou non? Regardez dans l'actualisation, ce n'est pas actualisé. Pas plus que l'abrogation de l'article 93 est actualisée. Quand on parle de sanctions, de programmation royale, de promulgation d'une loi, tout se fait dans l'illégalité. Donc, qu'est-ce que je dois servir, moi, dans l'illégalité? Je vais servir le Québec avant de servir le fédéral. C'est normal, parce que ces gens-là occupent une juridiction illégale en fiscalité. J'ai le droit de défendre ça, au moins. Le Québec est assez endetté de même. Vous avez la Fédération canadienne. J'ai le droit de défendre les droits du Québec, mes droits à moi. C'est la première des choses, c'est de défendre mes droits parce que j'ai les connaissances pour le faire. Je ne demande pas à tout le monde ici de défendre leurs droits de la façon que je le fais. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne connaissent pas ça. J'ai étudié mon cher ami jour et nuit que je suis un bruteur maçon. J'arrive le soir, moi, à 5 heures, je roule mes livres. Ça fait 7 ans que je fais ça. Le matin, je me lève à 4 heures, puis j'étudie encore. C'est dingue. J'ai perdu mon épouse avec ça. J'ai perdu bien les gens de mon entourage. Il faut toujours me refuser. Vous avez raison de dire que oui. J'ai eu plusieurs requêtes de déposer devant le procureur et tout ça. J'ai travaillé là-dessus. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je fais. Sauf qu'on ne veut pas m'entendre. Puis je ne dis pas que je ne veux pas payer d'impôts, là. Non, 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 non. La Constitution me dit qu'il faut que je paye d'impôts. Qu'il faut que je paye des taxes. C'est ça que je veux respecter, mais constitutionnellement, dans la légalité constitutionnelle, je demande ça. J'en demande pas plus. Puis, comme je dis, vous avez parlé dans l'année 95, comme je dis, je l'ai fait. Quand on dit que les cours rejettent des mandamus, rejettent des années 95, rejettent des certiorari, rejettent des recours extraordinaires, est-ce que c'est à l'avantage de la justice? Est-ce que c'est à l'avantage de notre système ici? Est-ce que les avocats, dans le fond, qui peuvent servir un justiciable, peuvent le servir en matière constitutionnelle comme moi je peux le faire dans les connaissances ou dans les études que j'ai faites? Pas du tout. J'ai des lois ici, on parle de serment d'allégeance, je parle de mon statut de sujet de la reine parce qu'on est dans une monarchie constitutionnelle, on se fout carrément de ça. Par contre, j'ai dans le dossier en question la déclaration, tout simplement le serment d'allégeance de Mme Adrienne Clarkson, qui est gouverneur général du Canada, et elle fait allégeance à la reine. Pourquoi elle fait allégeance à la reine? Et tout est beau, on met ça dans les journaux, c'est extraordinaire. Et moi, parce que je dis que je suis un monarchiste, je suis un abruti. Parce que je suis un citoyen. Revenu Canada, M. Gilles Noël, qui est ingénieur, m'a déposé un document. Il dit, genre, je dois 2 000-3 000 $. J'ai dit, OK, je vais essayer de te faire quelque chose. J'ai dit, j'ai une petite requête, j'ai envoyé ça à Revenu Canada. Lui a mis son étampe d'ingénieur dessus. Mais ben, lui aura redonné son chèque, puis on dit que tout était beau. Mais parce que ces gens-là n'ont pas des étampes d'ingénieurs à mettre sur leur dossier, ou moi, je suis un simple travailleur, moi, ça ne marche pas. Parce que je ne suis pas soumis à la loi des professions. C'est tout. Donc, à quelque part, il y a une discrimination. Il y a une question d'illégalité. On a beau prétendre, j'ai déposé une requête devant le tribunal des droits de la personne, ils ont dit, vous n'êtes pas devant la bonne juridiction. J'ai demandé à Maître Spivak de déférer la cause, et Maître Dominique Guimond qui était là, de déférer la cause devant la Cour supérieure, qu'on puisse en débattre immédiatement. Ils ont refusé de le faire. Il n'y a pas eu de requête en irrecevabilité, là. Ils ont carrément refusé de le faire. Et j'étais volontaire à débattre du contenu de ma requête. Et c'est le juge Simon Brassard, l'honorable juge Simon Brassard, qui a demandé au procureur s'il voulait déférer la cause en cause supérieure. Et j'ai la transcription de ça. Et là, j'avais dit justement au procureur, j'ai dit au juge, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, je vais déposer une déclaration, parce que moi, ça ne me donne pas. Ça ne justifie pas mes droits de refuser toujours de répondre justement à la légalité ou à la constitutionnalité de ce que je prétends être constitutionnel ou être inconstitutionnel. C'est certain, il y a quelqu'un qui me disait, il dit, monsieur Normandin, il dit, tu dis en avocat, il dit, choisis entre 7 et 8, il dit, je vais dire 7, il dit, t'as pris 8. Ces gens-là sont toujours là pour dire le contraire de ce qu'on avance. C'est certain, c'est une technique, c'est une habilité, ça, qui existe, que moi, je ne possède pas. Je suis un simple citoyen, je suis un justiciable. Je ne suis pas là pour dire le contraire de ce qu'un avocat peut affirmer. Je suis là pour lui demander, tout simplement, de me dire dans ses connaissances à lui, est-ce que c'est constitutionnel, et de m'expliquer si, vraiment, ce que je prétends être inconstitutionnel, ça l'est. Qu'on me le dise. Moi, qu'on ne me dise pas qu'on va t'emprisonner parce que tu ne payes pas tes impôts, tu ne payes pas tes taxes, c'est pas ça. Pas pour rien que j'ai déposé une requête en déclaration, à partir justement de cette lettre de menace-là. C'est parce que pour moi, j'ai des droits qui existent. Puis si mes droits n'existent pas ici au Québec, qu'on m'emprisonne. Ça devient tout simplement un prisonnier politique. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Je deviens un prisonnier politique. Parce que le système, présentement, ne s'aide pas. On s'enlise continuellement. Maître Spivak fait son possible. Il est au Québec. Pourquoi il sent le gouvernement canadien tel qu'il le fait présentement? Qu'est-ce qui vous lie présentement Un gouvernement canadien, vous...
Je suis
un
Normandin.
Non, mais
c'est... Il n'y a pas avec eux autres. C'est avec moi que l'on affaire.
C'est ça, mais...
Ben, laissez-lui la paix, lui, il fait sa job,
sans doute.
La vôtre.
Sans doute.
C'est comme ça que ça marche. Parce que si vous allongez plus,
vous avez raison, c'est l'ordre.
Vous avez
raison, c'est l'ordre. Il y a assez de désordre, vous avez raison. Remettez-moi à l'ordre.
Non, non, allez.
Il n'y a pas de problème. Écoutez, votre seigneurie, c'est certain que je ne sais pas ici ce que vous pensez de tout ça. Je n'ai pas ouvert rien de mes dossiers. Je n'ai pas d'ordre dans ce que j'ai dit. J'ai absolument pas d'ordre dans ce que j'ai dit. Vous savez, parce que c'est des choses qui sont très importantes. C'est des choses qui peuvent intéresser beaucoup de gens, sauf que, à quelque part, quand on dit que c'est farfelu, vous êtes libre de dire que c'est farfelu. Vous êtes un ancien avocat, vous comprenez beaucoup plus le message des avocats que le message d'un justiciable, c'est normal. Puis, quand je dis l'inconstitutionnalité de la Cour ici, je le dis pas méchamment, je le dis pas pour tout simplement détruire l'appareil judiciaire, je le dis pour que les gens soient conscients de ça en quelque part. Puis que j'ai des droits qui existent, moi, j'en ai des droits qui existent. C'est certain qu'on peut partir de la Cour provinciale, monter en Cour supérieure, aller en Cour d'appel, puis sans la Cour suprême. Mais pourquoi ne pas aider à partir d'une Cour provinciale qui a une juridiction québécoise ici? Qui n'est pas nommé par le premier ministre du Canada à partir de la Cour supérieure. On est au Québec ici. Pourquoi ne pas essayer un petit peu d'aller au Québec et de transférer le fardeau de la preuve au procureur adverse en disant, Monsieur Normandin, je vous donne raison sur votre requête, qu'il rédige une défense écrite. Et là, on en débattra. Ça, c'est un service que vous pourriez rendre. Parce que sinon, je possède toujours le fardeau de la preuve et eux ont toujours la présomption d'innocence. Étant donné qu'ils sont défendeurs. Un défendeur a la présomption d'innocence. C'est certain que vous pouvez statuer la question du fardeau de la preuve sur, je ne sais pas moi, le plus de motifs possible qui peut justifier nos prétentions en chambre civile, je sais que c'est ça. Mais à mon avis, à moi, il faudrait éventuellement que le fardeau de la preuve retombe sur les épaules du procureur général du Québec et du Canada, de façon à ce que ces gens-là puissent me prouver à moi comme personne qui pourrait posséder la présomption d'innocence, étant donné la lettre de menace, que je puisse au moins connaître mes droits, qu'on puisse m'expliquer que c'est vraiment constitutionnel ce qu'ils demandent, et qu'ils puissent me prouver que moi, quand je paye quelque chose au gouvernement, qui va éventuellement payer nos institutions et tout ça, que je le paye dans la constitutionnalité du système, pas dans l'inconstitutionnalité du système tel que je le prétends. Et tant qu'aussi longtemps qu'on ne me fera pas la preuve, je vais toujours payer dans l'inconstitutionnalité du système. Je le sais, et ils ne veulent pas en débat. C'est pour ça que je dis, on est en Cour du Québec ici, qu'on me donne au moins cette chance-là. Maître Spivak l'a dit, il a fait 14 fois, 15 fois, 16 fois que je passe en cours, puis jamais. Sauf que c'est certain que je suis pas venu en cours du Québec. Ça s'est toujours fait généralement en cours supérieure. Mais là, au moins, ici, la Cour du Québec, au moins, c'est à l'intérieur du Québec, c'est une juridiction du Québec, c'est nommé par le Québec. C'est pas une juridiction de la Cour supérieure nommée par le Parlement canadien, par le premier ministre du Canada. Qui, vous savez que la nomination des sénateurs et des juges se fait par le premier ministre, et vous avez la mémoire de Maître Vincent Pouliot, qui a été déposé devant la Cour suprême, qui parle d'usurpation du premier ministre, d'usurpation de la reine par le premier ministre du Canada. Et ça, c'est sur la question du droit du Québec à la sécession. J'ai le mémoire, je possède ce mémoire-là. Donc, mes prétentions ne sont pas mal fondées. Parce que le maître Vincent Pouliot, c'est pas un abruti, c'est un avocat, c'est quelqu'un qui connaît aussi ses droits, à quelque part. Sauf que ce que je trouve aberrant, c'est qu'on ne peut pas s'imaginer que la loi qui rédige nos fonctions ou notre autorité est une loi qui devrait être normalement constitutionnelle, puis elle ne l'est pas. On parle de la loi des tribunaux judiciaires du Québec, on parle de la loi des privilèges des magistrats au Québec, imaginez-vous. Un magistrat n'est pas supposé d'être, l'immunité du magistrat n'est pas supposé d'être régie par une loi, il représente la reine, il a automatiquement l'immunité. Et quand on rédige cette immunité-là en vertu du chapitre de loi P24, c'est parce qu'à quelque part l'Assemblée nationale est au-dessus de la reine, est au-dessus du pouvoir exécutif. Il y a un gros problème ici. Les gens connaissent le pouvoir exécutif, parce que les gens connaissent le pouvoir exécutif, je ne crois pas. Est-ce qu'on sait comment est structuré le système? Est-ce qu'on sait que le pouvoir exécutif, c'est aussi les tribunaux, que le tribunal est censé statuer même contre le gouvernement si le gouvernement agit mal? C'est ça la primauté du droit au Canada. La reine, ce sont les cours de justice, dans le fond. Et le juge peut statuer contre un député, ou même contre un ministre, contre un policier, contre l'appareil judiciaire, contre des gens qui servent l'appareil judiciaire et qui sont en infraction. Et quand j'arrive devant les tribunaux, on parle toujours de la question de l'immunité parlementaire. C'est ce qu'on me sort régulièrement. L'immunité parlementaire, vous ne pouvez pas toucher au gouvernement. Ce n'est pas question de ne pas toucher au gouvernement. C'est la question, au moins, qu'on va utiliser le Québec au Québec, on va se servir du Québec pour nos biens et nos droits, nous. C'est tout. Fait que, écoutez, je vous demande simplement de me donner la chance, aujourd'hui, de pouvoir payer mes impôts légalement et constitutionnellement, avec les prétentions que j'ai dans mes dossiers, qu'on me fasse la preuve que ce que j'avance dans mes requêtes, c'est faux. Qu'on me fasse la preuve par écrit. Une défense normale, une défense dans les détails. Faut qu'on puisse m'expliquer une fois pour tout que j'ai tort. J'en aurai plus de requête, je vais vous foutre la peine, il n'aura plus. J'aurai plus besoin d'en venir devant les tribunaux.
OK, très bien.
Je vous remercie, votre Seigneur.
Très bien, merci. Bon, je n'ai pas besoin d'entendre d'autres arguments, je vais prendre la cause en délibéré. Alors, ça prendra soin, c'est normal également, de votre requête 27.
Comment?
Votre requête, qui est le numéro 27, va être comprise là-dedans aussi.
Oui.
OK?
OK, je vous remercie beaucoup. Très bien.